Comment cela, in utero ? Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non. Hélas, non. Nous ne nous souvenons pas de nous, bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé ? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Véronique Izard est chercheuse en sciences cognitives, membre du labo bébé de l'université Paris-Cité. Les mathématiques sont au cœur de ses recherches. On associe rarement les mots mathématiques et bébé, et pourtant.
Effectivement, il y a des recherches qui montrent que les bébés sont capables de faire des petites opérations. Alors ça n'a pas été testé à la naissance. Ça a été testé chez des enfants à partir de 4-6 mois. Donc à 6 mois, par exemple, ils vont faire des opérations de type addition, soustraction. Donc toujours de manière approximative, évidemment. Mais si on leur montre 5 plus 5, donc 5 objets vont se cacher. Après, il y en a 5 nouveaux qui arrivent, qui se cachent aussi. On enlève le cache et on dévoile ce qui se trouve derrière le cache. Là, s'il n'y a que 5 objets, le bébé est surpris. Si on lui en montre 10... Ils trouvent ça normal, si on leur montre 12 aussi, enfin, c'est pas 10 exactement. Donc ça, c'est une compétence qui a été montrée à 6 mois.
Les bébés de 6 mois sont donc capables de faire des opérations simples comme des additions, des soustractions et même des divisions. Cela vous semble incroyable ? Pourtant, les recherches de Véronique Izard vont encore plus loin. Bien plus loin. Véronique Izard cherche à comprendre l'origine de nos capacités mathématiques. C'est pour cela qu'elle s'est intéressée aux nouveau-nés. Elle s'est demandé si les bébés naissaient avec des intuitions mathématiques. Mais comment en est-elle venue à se poser cette question surprenante ? Pour commencer, Véronique Izard, moi j'ai vu que vous étiez polytechnicienne, ce qui m'a beaucoup impressionnée. Et je me dis, a priori, vous ne vous intéressiez pas aux bébés et au développement du cerveau des bébés ou des compétences des bébés.
Non, c'est vrai que c'est venu après. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin de mes études à Polytechnique, donc moi j'étais vraiment passionnée par les maths.
Ouais.
Et je me posais des questions autour du fait d'aimer les maths. Donc, pourquoi j'aimais les maths? Qu'est-ce qui me plaisait dans les maths? Et pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on avait accès aux maths? Ça me fascinait beaucoup, ce genre de questions-là. Et je me destinais plutôt à une carrière de chercheuse en mathématiques ou en mathématiques appliquées. Et il se trouve que, complètement par hasard, je suis tombée sur un flyer du DEA de sciences cognitives. À l'époque, c'était encore des DEA. Et en le feuilletant, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment interpellée. Donc c'est un DEA qui était interdisciplinaire autour des sciences cognitives, avec de la psychologie, de la linguistique, des neurosciences, de la philosophie. Et donc je connaissais pas du tout cette science. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée et j'ai décidé de plonger. J'ai rencontré plein de chercheurs et c'est à ce moment-là, par exemple, j'ai rencontré Stanislas Dehaene, qui est devenu mon directeur de thèse, qui venait de publier un livre sur la bosse des maths, qui s'appelle « La bosse des maths », pour expliquer pourquoi nous, êtres humains, avons la bosse des maths. Et donc, ça résonnait complètement avec mes intérêts. Et donc, pour l'instant, pas de bébé. En fait, les questions autour du bébé sont venues plus tard. C'est-à-dire qu'au cours de ma thèse, j'ai commencé des études qui portaient sur l'adulte, sur la manière dont l'adulte comprend les quantités, associe des mots avec des quantités. Et après, j'ai commencé aussi à travailler avec des grands et des plus petits qui étaient dans une tribu d'Amazonie.
Les Munduruku.
Les Munduruku, exactement. Donc ça, c'est un travail qui était en collaboration avec Pierre Pica, qui se trouvait pendant que j'étais là. Il est venu au laboratoire et il est venu proposer à Stan de collaborer autour des Munduruku. Donc j'étais là, moi, ça m'a fascinée. Donc j'ai pris le train en marche.
Donc ça veut dire que vous êtes allée chez les Munduruku ?
Moi, j'y suis pas allée. Non, c'est Pierre qui y allait. Moi, je suis pas du tout assez téméraire pour ça. Moi, je programmais les tâches et puis je les analysais au retour de Pierre. Donc c'est
Alors, juste ce qu'il faut dire, c'est qui sont les Munduruku, pour qu'on comprenne.
Alors, les Munduruku, donc, c'est un peuple qui habite au Brésil, en Amazonie, dans l'état de Pará, et qui est un peuple chasseur-cueilleur aussi agriculteur. Et nous, en fait, donc Pierre Pica avait des relations avec eux depuis assez longtemps. Pierre Pica est linguiste, donc il étudiait leur langage. Et il s'était rendu compte que dans leur langue, il n'y a pas de mots pour les nombres. Enfin, il y a des mots pour les nombres, les petits nombres jusqu'à 5. Et au-delà, bon, ils se débrouillent avec des expressions qui sont approximatives, des choses qui veulent dire beaucoup, pas beaucoup, des choses comme ça.
Du type une poignée, deux paniers, voilà, un peu, vraiment
oui,
beaucoup,
oui,
c'est ça
ouais. des choses comme ça, exactement. Ils se débrouillent avec ça. Et donc, pour nous, c'était fascinant parce que c'était une manière de voir est-ce qu'il y a des intuitions universelles sur les nombres ? Même chez des personnes dans une culture où on ne va pas parler de nombres tout le temps. Tiens, nous, on parle de nombres tout le temps, donc on voit qu'on a des intuitions qui se maintiennent pendant toute la vie, mais on renforce ces intuitions tous les jours, en fait. Donc c'est normal qu'elles se maintiennent. Et donc là, ça a été une manière de poser la question. Vraiment, cette question philosophique autour des maths, de pourquoi nous on fait des maths, pourquoi l'être humain est attiré par les maths, pourquoi l'être humain est capable de faire des maths. Et la réponse qu'on proposait, c'est parce que, en fait, on est né avec des intuitions qui ont un contenu mathématique. Et ces intuitions, on les a retrouvées chez les Munduruku. Et ces mêmes questions, j'ai eu envie de les poser chez le bébé.
Véronique Izard s'est toujours posé des questions philosophiques, même quand elle était à Polytechnique et qu'elle rêvait de devenir mathématicienne. Son travail de chercheuse en sciences cognitives vise à déterminer la part universelle de la pensée mathématique et des intuitions mathématiques chez l'homme.
Ces intuitions, Véronique Izard, parce que j'ai découvert ça il y a très peu de temps, ce qu'on appelle des intuitions mathématiques, c'est ce qu'on appelle aussi les connaissances noyaux, c'est-à-dire qu'on naîtrait avec des intuitions mathématiques, des compétences mathématiques qui seraient déjà présentes dans notre cerveau.
Voilà, donc la théorie des connaissances noyaux, c'est une théorie qui dit que le bébé naît avec un certain nombre de connaissances qui peuvent être des connaissances abstraites, et donc des connaissances sur le monde physique, et en particulier des connaissances avec un petit peu de mathématiques dedans. Pas toutes les mathématiques, évidemment, mais par exemple un sens des quantités. La possibilité de percevoir qu'il y a plus ou moins de choses et des quantités numériques, c'est-à-dire en faisant abstraction de si on vous donne 4 gros points et 12 petits points, il y a plus de points même s'ils sont plus petits. Et donc les bébés sont capables de faire ce genre d'abstraction-là.
Des bébés ou des nouveau-nés ? De quel âge ?
Alors, pendant ma thèse, je me suis intéressée à des bébés qui avaient 3 mois, parce qu'à l'époque, on venait de montrer qu'à 6 mois, les bébés avaient la perception des quantités numériques. Donc après, pendant ma thèse, je me suis intéressée à des bébés de 3 mois. Et ensuite, je suis partie en post-doc. Et là, en post-doc, j'ai rencontré, à l'autre bout du monde, une chercheuse française, donc Arlette Stréry, qui, elle, travaille chez le nouveau-né, en France, à Paris. Et donc, elle va tester des bébés vraiment dans les 2-3 jours qui suivent la naissance, quand ils sont encore à la maternité. Et donc, on a mis au point une expérience ensemble. Et donc, avec cette expérience, on a pu montrer que déjà à la naissance, la plus jeune qu'on a testée, ça m'a marqué, elle avait 7 heures. Et donc, on avait un groupe de bébés qui, en moyenne, avait 50 heures d'âge. Et donc, à la naissance, ils avaient cette perception des nombres.
Je ne peux pas m'empêcher de souligner ce que vient de dire Véronique Izard. À 7 heures de vie, un bébé est sensible à la numérosité. Il a un sens des quantités approximatif. Mais comment fait-elle pour tester les nouveau-nés en maternité ?
Alors, on se sert du temps de regard. Donc, on regarde le comportement du bébé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait écouter des choses et regarder des choses en même temps. Et on sait de manière générale que le nouveau-né va regarder plus longtemps quand ce qu'il voit correspond à ce qu'il entend. Et donc, on avait des bébés à qui on faisait écouter des séquences de sons, des séquences de syllabes qui pouvaient contenir soit 4 syllabes, soit 12 syllabes. Donc, certains bébés entendaient les 4 syllabes, d'autres bébés entendaient les 12 syllabes. Et en même temps, on leur montrait des images qui contenaient 4 objets ou 12 objets. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les bébés, effectivement, regardent plus longtemps quand le nombre d'objets qu'ils voient correspond au nombre de syllabes qu'il entend. Donc, vraiment un sens du nombre qui est très abstrait à la naissance parce qu'ils ont réussi à faire la correspondance entre des choses qui n'ont vraiment rien à voir, des syllabes du style tu-tu-tu-tu, et des images qui sont en face d'eux avec 4 petites formes qui sont là toutes en même temps, alors que les syllabes, elles sont les unes après les autres. Enfin, en surface, ces choses sont très différentes, mais il y a un truc abstrait qui est commun, c'est le nombre. Et les bébés, à la naissance, ont été capables de détecter cette propriété commune.
Véronique Izard est chercheuse en sciences cognitives et membre du labo Bébé de l'Université Paris-Cité. Elle a apporté la preuve que dès les premières heures de vie, les bébés ont une idée des quantités, pour peu qu'elles soient suffisamment éloignées. Les nouveau-nés ont donc des intuitions numériques et mathématiques. Les tests que Véronique Izard réalise en maternité sollicitent l'ouïe et la vision des bébés. Cela m'étonne parce que je pensais que les nouveau-nés voyaient flou à la naissance.
Effectivement, leur vision est plus floue. Et effectivement aussi, il y a une distance qui est idéale pour eux, qui est de l'ordre de 60 cm.
C'est ça.
Nous, on mettait nos images à 60 cm. Et puis, en faisant des choses assez grosses pour qu'a priori, ils puissent les voir. Mais après, cette idée de perception des quantités, c'est pas forcément nécessaire de savoir faire le tour de chaque objet pour percevoir qu'il y a une quantité. Peut-être qu'une image un petit peu floue peut suffire à se rendre compte qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est presque une texture, en fait. On ne sait pas exactement comment le mécanisme marche, mais...
Vous avez été stupéfaite ?
Alors, moi, je ne m'y attendais pas. Je dois dire, donc, Arlette avait l'habitude des nouveau-nés, et elle y croyait dur comme fer. Moi, je l'ai fait un peu pour lui faire plaisir, au début. Et j'ai été complètement bluffée parce qu'en plus, c'est une expérience qui a marché. On l'a refaite pas mal de fois. Et à chaque fois, sur 16 nouveau-nés, il y en a 14-15 qui font la même chose. Pour une expérience chez les bébés, quelque chose qui est aussi marqué où tous les bébés pratiquement donnent la même réponse, c'est assez rare en fait.
Ah oui.
Et là, ce que ça suggère, c'est qu'on a trouvé une manière de leur poser la question qui pour eux est très intuitive. C'est d'une évidence folle pour eux.
Ça veut dire quand même que ces nouveau-nés ont une capacité d'abstraction, vous le disiez, extraordinaire.
Oui, c'est... c'est là où moi, ça m'a vraiment épatée. Mais pour Arlette, en fait, ça correspond à une théorie qu'elle défend depuis longtemps, qui est que le nouveau-né, comme elle dit, il vit dans l'abstraction. C'est-à-dire, il vient au monde, alors il a... Dans le ventre, il entend des choses. Donc l'audition, elle est déjà assez entraînée. Mais par contre, la vision, bon, peut-être qu'il voit des halos de lumière, mais il ne voit rien de précis, en fait, tant qu'il est dans le ventre. Et tout d'un coup, il a toute cette stimulation visuelle qui lui arrive. Et l'idée d'Arlette, c'est que, il commence, pour faire sens de tout ce qui lui parvient, il commence par les choses les plus abstraites. Parce que ce sont les choses les plus générales. Si vous voulez, la quantité, ça s'applique à tout, en fait.
Ouais. Donc ça voudrait dire que les bébés auraient comme ça un sens, une lecture du monde, si on peut dire comme ça, abstraite, et qu'ils vont affiner au fur et à mesure des expériences qu'ils auront dans leur vie et dans leur environnement. C'est ça?
Voilà, oui, c'est ça l'idée. C'est l'idée de ces connaissances noyaux. Ils partent avec ces connaissances noyaux très abstraites et ça leur donne un guide, en fait, pour, au fur et à mesure, affiner, effectivement, exactement comme vous dites, leur compréhension du monde.
Plus j'écoute Véronique Izard, plus je suis épatée, moi aussi, par les extraordinaires capacités d'abstraction des nouveau-nés. Pourtant, au début de ses recherches, Véronique Izard pensait que les nouveau-nés s'accrochaient à des détails pour développer leurs connaissances, mais à force d'expérience, elle a compris que c'était l'inverse. Les bébés disposent d'un sens très général de la quantité qui va leur servir d'appui pour tous les apprentissages. J'ai demandé à voir la vidéo que Véronique Izard montre aux nouveau-nés en maternité pour me faire une idée. Et ce que je vois apparaître à l'écran me fait sourire.
En tout cas, ils ont des super bonnes têtes, les personnages, là. Ils ont des gros yeux ronds.
Ça, je m'étais amusée.
Des cœurs avec des grands sourires, des grands yeux.
Oui, je me suis bien amusée avec ces yeux un petit peu de travers. Après, les yeux, je pense pas que... Donc c'est un rond avec deux yeux et une bouche. Je
énorme.
Pense pas que les nouveau-nés voient les yeux et les bouches. Mais bon, c'était mignon, c'était amusé.
Puis un grand sourire aussi.
Un grand sourire, bah oui.
Ça ressemble un peu au barbe à papa, là, l'image rouge. C'est la tête des barbes à papa. Alors,
la vidéo commence. Jamais je n'aurais imaginé que l'on puisse faire entendre des voix comme celle-là à des nouveau-nés.
Donc là, vous avez entendu la version où c'est le nombre 4. À chaque fois, il y a 4 syllabes. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de différence de durée entre 4 et 12. Donc du coup, les syllabes, quand on est sur 4, elles sont très longues pour qu'on puisse en placer 12, en fait, si besoin.
D'accord. Et en même temps qu'on entend cette bande-son, donc il y a un petit film qui passe où on voit...
Donc, 4 images ou 12 images. Donc, et donc, ça, c'est donc un premier groupe de bébés qui avait cette version-là. Et l'autre groupe de bébés avait une version où ils entendaient 12 sons. Et par contre, ils voyaient le même film. Et donc, nous, ce qu'on cherchait, c'est est-ce que, en vertu du son qu'ils entendent, est-ce que leur regard sur les images va changer? Et c'est ce qu'on a trouvé.
Ce que Véronique Izard et sa collègue Arlette Stréry ont trouvé, c'est que les nouveau-nés regardent plus longtemps le film avec 4 images et des sons de 4 syllabes que celui avec 4 images et des sons de 12 syllabes. Véronique Izard et Arlette Stréry ont testé plus de 100 bébés qui ont, pour la majorité, répondu de la même façon à ces tests. Cela prouve que les nouveau-nés n'ont pas besoin d'avoir eu d'expérience ou d'apprentissage pour avoir un sens de la quantité.
Oui, à la naissance, ils vont faire les différences quand les nombres sont dans un écart de 3 pour 1.
Ouais.
Donc on a entre 4 et 12, ou entre 6 et 18,
ouais.
Ou entre 3 et 9, tout ça, ça marche. Mais quand on s'est rapproché, on a essayé 4 et 8, là, les nouveau-nés, ça marchait plus trop bien. En fait, au fur et à mesure de la vie, ils vont voir des différences de plus en plus fines. Donc à 6 mois, ils vont détecter des différences de 2 pour 1. Donc là, ils vont voir 4 versus 8, ils vont voir 8 versus 16, des choses comme ça. Mais 8 versus 12, non. Là, ça devient trop proche. Donc pour faire 8 versus 12, on doit attendre 9 mois, etc. Et après, en fait, on arrive à un certain plateau. C'est-à-dire que nous, adultes, si je vous montre 999 versus 1000, vous ne verrez pas la différence, en fait.
Non, c'est sûr.
Donc voilà, à un moment, on arrive à la limite du système. Mais donc voilà, cette perception de la quantité qu'on a trouvée chez les nouveau-nés, elle est présente tout au cours de la vie. Elle s'affine au fur et à mesure, mais on reste sur une perception qui est approximative.
D'où viennent ces connaissances noyaux ?
En fait, ce seraient des structures du cerveau qui ont été sélectionnées par l'évolution, qu'on va trouver chez d'autres espèces animales et aussi chez l'homme. C'est lié à cette intuition qu'on a aussi que l'animal, en fait, est un être précoce et il comprend beaucoup de choses précocement. En fait, nous aussi, êtres humains, on a aussi hérité de ces choses-là. C'est juste que par-dessus tout ça, on met plein de couches d'apprentissage en plus. Dans les connaissances noyaux, il y a des intuitions qui vont servir de socle, mais qui ne sont pas tout, en fait. Il faut ensuite pouvoir aller au-delà.
Pour ses travaux sur les intuitions mathématiques des nouveau-nés, Véronique Izard a reçu en 2016 la médaille de bronze du CNRS.
Alors le travail sur les nouveau-nés, oui, a été reconnu. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une aventure assez magique. Quelqu'un arrive, me propose de faire ça. Bon, c'est une question fascinante. Elle le fait, ça marche super bien. En quelques mois, on a écrit l'article, il est passé dans un super journal. Grâce à ça, j'ai eu un poste au CNRS. J'étais contente aussi. Et en fait, je pense que dans la littérature, ça venait combler un trou. Où tout le monde suspectait que ça devait être comme ça, mais sans forcément l'avoir montré. Et là, enfin, c'est bon. On a la preuve. Voilà.
Vous avez apporté la preuve.
Voilà.
Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », nous parlerons de cerveaux artificiels, de mouches et de géométrie. Véronique Izard nous incitera à nous questionner sur le regard que nous portons sur les bébés humains et sur les croyances que nous avons à propos de leurs capacités. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.